Le Super Tuesday va-t-il rebattre les cartes des primaires démocrates? Un tiers des délégués sont en jeu. On n'a pas encore tous les résultats, mais ça commence à se décanter. Bonjour Clément Perrot.
Bonjour.
Cette présidentielle américaine, vous l'avez vécue de l'intérieur. Vous, il y a 4 ans, vous étiez dans l'équipe de campagne de Bernie Sanders. Vous avez commencé en faisant du porte-à-porte. Vous aviez 26 ans et vous racontez cette expérience dans un livre qui s'intitule « Demo Crazies », un livre, et c'est pour ça que je vous invite, qui nous donne aussi les clés pour mieux comprendre l'élection de cette année et plus globalement la démocratie américaine. Alors ces résultats du Super Tuesday, est-ce que c'est conforme à ce qu'on pensait ?
C'est conforme à ce qu'on pensait il y a 12 heures, mais c'est pas du tout conforme à ce qu'on pensait il y a 3 jours. Cette primaire déjoue tous les pronostics dans la rapidité à laquelle les basculements se font. On a l'Iowa où Buttigieg, il y a moins de 31 jours, le 3 février, sort vainqueur avec 0% dépouillé. On a aujourd'hui un 3 mars où c'est Joe Biden qui rafle la moitié au moins des États, même si les dépouillements sont en cours et qu'il ne faut pas trop s'avancer.
Oui, parce qu'il reste 2 gros États.
Ce basculement de situation n'aurait pas été vraiment prévisible il y a un mois.
Il reste 2 gros États, le Texas
et
la Californie.
Donc, parce qu'en fait, on est en décalage horaire.
Exactement.
La Californie a 9 heures de décalage avec nous. Et en plus de ça, la Californie met historiquement beaucoup de temps à dépouiller. On avait mis, il y a 4 ans, 33 jours à dépouiller les 5,2 millions de bulletins.
Donc ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, Joe Biden se relance dans la course et que les ralliements là, de ces derniers jours des anciens candidats, ça marche.
Ça marche et c'est intéressant de voir en fait à quel point ça clarifie le jeu. On avait jusqu'à maintenant une scène saturée, on avait 27 candidats à un moment, 25 en juillet dernier, 7 il y a encore une semaine. On a aujourd'hui des ralliements sans aucune négociation sur le programme. Il n'y a pas un seul point qui a été négocié par Amy Klobuchar et Pete Buttigieg qui pourtant prétendaient être des voix nouvelles. Ça clarifie le face-à-face establishment contre Bernie Sanders qui finalement, même si aujourd'hui ça relance Joe Biden et c'est clairement un bon coup de boost pour lui, au moins simplifie la donne pour Bernie Sanders qui peut finalement rejouer ce qui se passe en 2016. Le livre est du coup pas du tout si daté que ça.
Donc c'est plus qu'une bataille à deux ou il faut encore compter aussi, on n'a pas parlé de Michael Bloomberg.
Michael Bloomberg et Elizabeth Warren. Au passage, Michael Bloomberg est scandaleux dans l'invisibilisation de la seule candidate femme importante qui reste, puisqu'il y a aussi Tulsi Gabbard qui est en course de manière assez improbable parce qu'il n'a rien gagné jusqu'à maintenant. Donc ils sont 5 officiellement. En vrai, vous avez raison, la course va se jouer à 3 parce qu'Elizabeth Warren apparemment est troisième dans son état, le Massachusetts, donc il n'y a aucune raison rationnelle pour qu'elle reste dans la course, rationnelle, mais néanmoins, avec un peu de cynisme et de stratégie, elle peut jouer la division des voix de gauche et espérer être le point central de ralliement qui conciliera les pro-Sanders et les pro-Biden à une convention contestée. Bloomberg, c'est plus différent parce que comme il est totalement indépendant sur son argent, il s'en moque en fait de perdre.
De dollars.
D'une certaine manière, il s'en moque de perdre. S'il est là parce qu'il est convaincu que Joe Biden est un candidat faible, il ira jusqu'au bout, quitte à avoir une convention contestée ou à se lancer en indépendant.
Alors j'aimerais que vous nous donniez par exemple les thèmes de campagne qui sont développés pour chacun des candidats, une mesure phare pour chacun.
Je vais un peu tricher, mais ça tombe bien parce que, en fait, la mesure phare de Joe Biden, c'est le retour à la normale, ce qu'on ne peut pas considérer comme une mesure. Du coup, ça me permet d'en donner 2 pour Bernie Sanders. Le Medicare for All qui est, et le Green New Deal, qui sont en fait deux mesures fortes qui expliquent son attrait chez notamment les jeunes qui ont vu la décrépitude du système de santé et qui sont conscients de l'urgence sociale. Pardon, l'urgence environnementale.
Ces électeurs, ce sont surtout les jeunes ?
En tout cas, c'est là où ils raflent la mise de manière majoritaire. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, hein, même chez les minorités. Aujourd'hui, si Joe Biden gagne dans l'Alabama et dans d'autres États du Sud, c'est clairement un lien avec son attrait chez la minorité noire, qui est très forte dans ces états-là. Sauf que faut rappeler que chez les jeunes noirs, et c'est Van Jones, commentateur afro-américain de CNN, qui le soulevait il y a moins de 2 heures, c'est Bernie Sanders qui est en tête. Et ça montre aussi une fracture de génération, notamment dans la manière dont on s'informe. Les jeunes s'informent sur des réseaux sociaux, avec du coup une viralité possible. Les personnes plus âgées s'informent encore sur des chaînes de médias qui sont tenues par un establishment médiatique qui n'a aucun intérêt à voir la victoire de Bernie Sanders, notamment parce qu'on peut gagner 1,5 milliard en étant un média qui diffuse les pubs de Michael Bloomberg et d'autres gros candidats.
On parle beaucoup là de l'âge. Est-ce que justement ce fossé entre les électeurs jeunes et l'âge des candidats, 77, 78 ans, ils ont là les trois principaux, ça n'est pas un problème finalement aux États-Unis, on s'en fiche d'avoir des candidats si âgés?
Je pense que tout le monde est déçu que le champ politique ne se soit pas renouvelé. Ça tient à plusieurs choses. Le premier, c'est qu'on est sur un État où, pour percer, il faut faire un énorme travail, un travail de fond. C'est un vrai marathon. Et Bernie Sanders ne serait jamais là s'il n'avait pas fait campagne en 2016, par exemple.
Et en 2016, vous le disiez, au début, il était totalement
exactement
inconnu. Personne ne savait
qui c'était. Il est connu par 3% de la population américaine en 2016. C'est stupéfiant. Ouais. Et l'autre élément, c'est que je pense que la présidence Obama, par notamment son incapacité à être un pas énorme en avant pour la cause noire, a montré que les présidences symboliques ne font pas tout. Et c'est pour ça que Hillary Clinton, typiquement, a perdu quand même le vote des femmes blanches hein, en 2016 face à Donald Trump. C'est stupéfiant quand on y pense. Donc en fait, il ne s'agit pas juste d'être jeune ou d'être d'une minorité ou d'être une femme pour attirer les électeurs qui ressemblent à ça.
Bernie Sanders se présente comme socialisme. C'est quoi le socialisme à l'américaine?
Bernie Sanders se présente comme démocratique socialiste. Il le préside toujours parce que socialisme et soviétisme pour les Américains dans l'esprit, ça
fait
sonne
peur.
Pareil. Bernie Sanders, en fait, est assez intéressant dans son profil. Il y a trois aspects. Il y a son programme qui ressemble à un programme de centre-gauche européen, puisqu'il réaligne notamment sur la santé et sur le salaire minimum les États-Unis avec le reste de l'OCDE ou en tout cas la majeure partie des pays. Il a une stratégie qui en revanche est beaucoup plus proche d'une stratégie radicale avec une insurrection par les urnes, une révolution populaire par les urnes avec un retour massif aux votes qu'il souhaite, qu'il n'a pas encore démontré pour le moment. Et le troisième point qui est intéressant, c'est que le démocratique socialisme a une aspiration à une refonte du capitalisme avec une possession partielle et une gestion démocratique des moyens de production par les travailleurs et non pas par l'État, ce qui aussi le diffère beaucoup du soviétisme.
Ce que vous retenez de votre expérience d'il y a 4 ans, c'est que vous dites qu'il faut arrêter de se demander directement qui va gagner la présidentielle. Vous dites qu'il faut faire des pas de côté et ne pas regarder tous dans la même direction. Qu'est-ce que vous observez, vous, en ce moment ?
J'observe que les médias sont assez intéressants parce que la couverture, il y a une semaine maintenant, du Nevada a été tellement déplorable qu'elle a amené à des démissions. Chris Matthew, le Duhamel de la politique américaine, a dû démissionner après avoir couvert Duhamel en termes d'historicité, pas en termes de biais, a dû démissionner après avoir couvert de manière scandaleuse la victoire de Bernie Sanders. On a des voix nouvelles, on a Van Jones, on a sur MSNBC Amma Giribaras qui couvre ça avec un regard qui est clairement pro-Sanders. C'est ça qui est triste aux États-Unis, c'est qu'en fait, pour corriger leur biais, ils embauchent des gens qui sont plus pro-Sanders au lieu d'engager des gens qui ont un esprit d'analyse plus distancié.
Merci beaucoup Clément Perrot et je renvoie nos auditeurs à votre livre Demo Crazies, publié par deux éditeurs, Max Milo et Kim Alipense. Merci beaucoup, vous étiez l'invité du 5-7.